Jules Lermina, l'effrayante aventure. Première partie, Coxswain est-il Coxswain? Chapitre 1, le crime de l'obélisque. Vers 11 heures du matin, par un doux soleil de printemps, on était au commencement d'avril, le 2 pour bien préciser, tout à coup, des hurlements éclatèrent dans la rue Montmartre, à proximité du boulevard, tandis qu'une foule de coureurs rapides mais peu élégants se ruaient du coin de la rue de Croissant, les uns vers le carrefour, les autres dévalant vers les halles, mais tous glapissant des sons aigus incohérents à travers lesquels l'oreille déchirée cependant percevait des fragments de mots sinistres. Le crime de l'obélisque, demandez le nouvelliste, édition spéciale, horrible détail. Après quelques hésitations, car combien de fois n'avait-on pas été mystifié par la rouerie des camelots, quelques-uns achetaient la feuille, l'examinaient, puis subitement entourés, s'arrêtaient sur place comme médusés et lisaient au milieu d'un groupe d'où émergeaient des faces anxieuses. Oui, oui, un crime, un assassinat. Oh, de qui? On ne sait pas. L'assassin est-il arrêté? Je t'en fiche. Voici l'article court mais sensationnel qui motivait cette émotion. Ce matin, à 4h30, à l'heure où Paris désert appartient aux balayeurs et n'est sillonné que par des haquets d'arrosage, un journaliste, M. H., se rendait à son travail et, pour atteindre les chantiers de la Madeleine, traversait, venant de Grenelle, la place de la Concorde, quand tout à coup, du trottoir des Tuileries, par lequel il la contournait, ses outils sur l'épaule, il lui sembla apercevoir, au pied de l'obélisque, un peu au-dessus du sol, quelque chose d'anormal. Il passait d'ailleurs sans plus se préoccuper de ce détail, quand, s'étant retourné une dernière fois pour se rendre compte, il lui sembla que ce quelque chose avait forme humaine. Il se décida alors à traverser et marcha tout droit vers le monolithe, et quelle ne fut pas sa surprise, quand, n'étant plus qu'à quelques pas, il reconnut que l'objet qui avait attiré son attention était un corps humain appuyé debout devant la grille et dont les pieds ne touchaient pas le sol. Pris de peur et redoutant d'être mêlé à une mauvaise affaire, l'ouvrier avait fait volte-face et s'éloignait quand le hasard voulut qu'il croisât deux agents de la ville. Ceux-ci, frappés du trouble de sa physionomie, l'interpellèrent et, ahuri, trouvant difficilement ses mots, il leur fit part de son étrange découverte et tous trois revinrent vers l'obélisque. Ils ne s'étaient pas trompés. C'était bien le corps d'un homme qui se trouvait accroché au pic de la grille, la tête penchée en dedans de la clôture. Tout d'abord, on crut qu'il s'agissait d'un cas de pendaison, de suicide probablement. Mais quand les sergents de ville essayèrent de soulever l'homme afin de chercher le lien et le couper, ils s'aperçurent que leur supposition était mal fondée. Le corps était suspendu sur deux des pics de bronze qui avaient pénétré dans la poitrine si profondément que, malgré tous leurs efforts, les trois hommes ne parvinrent pas à soulever suffisamment le cadavre pour le dégager. En vain, l'un des deux sergents de ville sauta par-dessus la grille sur le soubassement de granit. Il vit bien la tête de l'homme couverte de sang coagulé qui formait sur la face un masque rouge, mais il lui fut impossible de dégager le thorax des pointes qui le transperçaient. Comme par miracle, des passants avaient survécu de toutes parts et formé groupe autour du mort. Les sergents de ville lancèrent des coups de sifflet d'appel et bientôt deux autres agents arrivèrent et fendirent la foule. Quand ils eurent constaté le fait, un d'eux se détacha pour aller prévenir le commissariat. Ainsi, un quart d'heure se passa. Enfin, M. Richaud, le sympathique commissaire du quartier, arriva, accompagné de l'officier de paix et des hommes du poste. S'aidant les uns les autres, ils parvinrent enfin à enlever le corps qu'ils étendirent sur le trottoir. Au premier coup d'œil, il apparut que ce n'était pas celui d'un Français. La coupe et l'étoffe des vêtements étaient anglais, à n'en pas douter. La face, rapidement lavée et dégagée des caillots de sang qui la cachaient, était large, glabre, avec les mâchoires proéminentes, de caractère saxon certainement. Le crâne portait à la partie frontale une effroyable blessure causée évidemment par un instrument contondant. Des parcelles de cervelle giclaient hors de la plaie. Le corps a été transporté au commissariat et les autorités ont été prévenues. M. Daven, le chef de la sûreté, vient d'arriver et procède à une première enquête. On attend M. Lépine d'un moment à l'autre. Il ne nous appartient pas d'insister sur les bruits qui se répandent. Notre discrétion, bien connue, nous faisant un devoir de ne pas risquer d'entraver les recherches de la justice. Cependant, d'après l'examen du cadavre et quelques indices déjà recueillis, voici ce qui semble d'ores et déjà à peu près établi. Le mort appartiendrait au monde du sport. Probablement à la suite de quelques querelles, il aurait été assommé à l'aide d'un marteau ou peut-être d'une clé anglaise. Son meurtrier, aidé de quelques complices, aurait transporté le moribond sur la place et on aurait tenté de jeter le corps par-dessus la clôture, mais son poids l'aurait retenu sur les pics de la grille où on l'aurait abandonné. Des renseignements importants ont été recueillis qui paraissent devoir promptement mettre la police sur la trace du ou des coupables. Dans notre édition de 5 heures, nous donnerons les détails de cette horrible affaire qui paraît appelée à produire dans le public une profonde sensation et qui provoquera très vraisemblablement des révélations inattendues. On comprend facilement l'émotion qui courut dans Paris à l'annonce de ce mystérieux forfait. Et encore, qui aurait pu se douter des étonnantes, des incroyables conséquences que devait déchaîner cet événement?
Chapitre 2, où nous faisons la connaissance de M. Bobby. Nous nous payons facilement de mots. Quand nous avons appris qu'une enquête de police est ouverte, nous poussons un soupir de soulagement et déjà nous éprouvons comme un sentiment de sécurité. La police bénéficie surtout des inventions des romanciers. Depuis le Zadig de Voltaire jusqu'au Dupin d'Edgar Poe et à l'incomparable Sherlock Holmes, nous supposons volontiers que tous ces personnages ont été plus ou moins attachés au service de la sûreté et ont émargé au quai des orfèvres. Et ce nous est toujours une nouvelle surprise quand, les uns après les autres, nous devons classer les crimes les plus sensationnels au nombre des énigmes indéchiffrables. Il est même gênant de songer au nombre d'assassins inconnus qui courent le monde et que nous sommes exposés à coudoyer tous les jours. Le crime de l'obélisque, comme avait été baptisé l'affaire actuelle, allait-il grossir le nombre des dossiers à jamais clos? On commençait à se demander s'il était vraiment possible que pareil forfait fût commis en plein Paris, au point central des quartiers les plus luxueux, sans que la police pût découvrir le moindre indice. On avait fouillé tous les bars des environs, interrogé tous les sportsmen de haute et de basse catégorie, questionné l'ambassade d'Angleterre, car ce seul fait est acquis que la victime était anglaise. On n'avait signalé aucune disparition, ni dans les établissements spéciaux, ni dans les hôtels. Un instant, on avait cru tenir une piste. Des professionnels de la boxe avaient déclaré que l'inconnu devait être un habitué des assauts de cette spécialité, ceci à certaines traces caractéristiques que les poings laissent sur des parties du corps, toujours les mêmes, notamment une déformation des maxillaires. Le chef de la sûreté, M. Davaine, que quelques récents insuccès avaient mis en as ses fâcheuses postures, gourmandait ses agents de la belle façon. En vain, à la morgue où le corps avait été transporté, les indicateurs se mêlaient à la foule, interrogeant les physionomies des visiteurs, provoquant leurs confidences. Au résumé, le résultat est toujours le même. « Connais pas ». Un bruit courait assez singulier. L'autopsie avait été pratiquée et l'illustre médecin légiste qui avait réalisé l'opération aurait, disait-on, déclaré que l'individu en question n'était mort ni des blessures qu'il portait au crâne, ni des horribles plaies déterminées par cette sorte d'encrochement sur les pics de la grille, mais qu'il était mort auparavant. Ce qui lui semblait indiquer qu'il avait été assassiné et que c'était à l'état de cadavre qu'il avait été porté à la Concorde. Mais telle n'était pas la conclusion du praticien. Selon lui, l'inconnu était mort de suffocation. L'état de ses poumons ne laissait aucun doute à cet égard, et le cou ne portait aucune trace de violence, aucune marque de strangulation. Ce qui était acquis, du moins ainsi l'affirmait un reporter du Nouvelliste, c'est que la mort ne pouvait en aucune façon être attribuée aux blessures du crâne ou du thorax, lesquelles ne s'étaient produites qu'après la mort. D'autre part, le point où le cadavre avait été trouvé et qui forme le centre d'un énorme espace vide rendait difficile à accepter cette version que des malfaiteurs eussent justement choisi pour déposer le corps de leur victime à l'endroit aussi découvert, alors que même en pleine nuit, il était contraire à toute vraisemblance qu'ils puissent faire sans être vus un aussi long trajet, sous la lune qui justement était dans son plein et dans un ciel très clair. Et pourtant, s'écriait le sous-chef de la sûreté en conférence intime avec son chef, ce bonhomme-là ne peut pas être tombé du ciel. Mais quoi qu'il en soit, M. Lépine est furieux et j'ai subi tout à l'heure un assaut des moins agréables. Alors il faut s'ingénier, aller chercher, trouver. Entre nous, fit M. Lavore, le sous-chef, nous savons bien que si le hasard ne s'en mêle pas, nous pataugeons dans le noir sans rien découvrir. À ce moment précis, et comme dans les féeries à certaines paroles prononcées surgissent le personnage ou l'incident attendu, la porte du cabinet s'ouvrit et un inspecteur passa la tête. « Patron, est-ce que vous êtes visible ?»« Bon, c'est solo, il ne s'agit pas de quelque raseur. »« Non, non, c'est un Anglais qui se dit détective attaché à la préfecture de là-bas et qui demande à vous parler. » Le chef et son subordonné échangèrent un rapide regard. Un détective anglais, oh, est-ce qu'en effet le hasard se mettrait de leur partie ? Son nom ? Il m'a remis cette carte. Voyons. M. Davaine prit le carré de Bristol et lut. Bobby. Bon, c'est pas un nom, cela, mais un sobriquet. Alors, bon, bien, faites entrer. Et il ajouta en s'adressant à M. Laveur. Bon, cela ne nous engage à rien. Dois-je me retirer ? Non, 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 restez. La porte se rouvrit et l'inspecteur reparut, précédant le personnage qu'il avait annoncé. Celui-ci s'avança, le chapeau melon à la main. C'était un homme de 30 ans environ, petit, mince et fluet, très correctement vêtu, tout de noir avec un col blanc qui faisait liseré au-dessus de sa cravate. Visage rasé, cheveux en brosse très courts, roux de cuivre. La face maigre, assez pâle, les yeux petits mais très clairs. Bien ganté, bien chaussé, en somme, l'allure d'un pasteur protestant. « Monsieur Davaine ? » fit-il en s'inclinant en point d'interrogation. « Oui, c'est moi, monsieur. Et monsieur mon sous-chef, monsieur Lavaur, vous voulez parler en toute confiance. Un mot d'abord, votre carte porte ce seul mot, Bobby. Oh, je sais assez d'anglais pour ne pas ignorer que Bob est le surnom populaire des policemen. Mais je vous prie de me faire connaître votre véritable nom. Monsieur, dit l'homme avec un fort accent britannique, voici ma commission officielle, délivrée par monsieur le directeur de Scotland Yard. Elle est notée au nom de Bobby, qui est le mien. On s'appelle comme on peut. C'est vrai, fit monsieur Daven, lisant la pièce qui lui était remise. Donc, monsieur Bobby, j'ajouterai, s'il vous plaît, que ce nom est, comment dites-vous cela en français, un peu célèbre à Londres en raison de quelques services importants que j'ai rendus. C'est moi qui ai arrêté les faux-monnayeurs de Greenwich. Oh, fit le chef français qui n'avait jamais entendu parler de cette affaire. C'est moi qui ai dépisté et arrêté M. Lewis Bird, le parricide qui a été pendu. Oh! C'est moi qui... Pardon, interrompit M. Daven d'un ton assez sec. Je ne suppose pas que ce soit uniquement pour me faire l'énumération de vos exploits que vous ayez demandé à me voir. L'anglais se redressa avec une dignité quelque peu irritée. Je tiens avant tout à être connu. Chacun tient à sa propre valeur. Oui, très juste. Donc, monsieur Bobby, je vous tiens en estime que vous méritiez. Alors, que voulez-vous de moi?
Permettez-moi de procéder par ordre. Posons d'abord ce principe qu'attaché à la police de Sa Majesté le roi d'Angleterre et empereur des Indes, je ne suis lié par aucune obligation, de quelque nature qu'elle soit, envers la police de la République française.
Très solennel, monsieur Bobby. Bon, c'est posé, dit monsieur Daven, et après.
De plus, reprit Bobby, la situation toute particulière dans laquelle je me trouve actuellement militerait absolument contre la démarche que je fais en ce moment. Je me trouve en congé régulier et ne suis tenu à me préoccuper d'aucun événement, eût-il même trait aux intérêts de mon propre pays.
Le chef de la sûreté, qui n'était pas plus patient qu'il ne faut, sentait une infinie démangeaison de rejeter au-delà de son seuil cet individu bavard et encombrant. Mais M. Lavaur lui adressa un léger signe. L'homme était un original, cela ne prouvait pas qu'il ne pût rendre service. Et puis le hasard, le bienheureux hasard.
« Mais continuez donc, cher monsieur, » fit Daven avec son plus gracieux sourire.
« Tout ce que vous voulez bien me communiquer d'un intérêt puissant et me fait bien augurer de la suite de votre discours, nous vous prêtons toute notre attention. » Cette allocution de forme académique plus forte à Bobby. Enfin, on le traitait avec la considération méritée. De la main, M. Daven lui avait désigné une chaise. Mais M. Bobby préférait rester debout, parce qu'il ne perdait rien de sa taille.
J'ai tenu à vous faire bien comprendre, monsieur le chef de la sûreté, que si je me présentais chez vous, c'était de ma propre volonté, sans y être contraint par aucune obligation professionnelle. Je suis tout simplement un touriste qui est venu visiter votre Paris. Oh, une belle ville, vraiment, fit-il avec un ton de condescendance, et qu'un mouvement de générosité toute spontanée entraîne à vous rendre un petit service.
Trop bon, en vérité, mais seriez-vous assez aimable pour me rendre ce petit service le plus tôt possible? J'ai tant d'occupations que je suis un peu pressé.
Une ombre passa sur le visage de M. Bobby. Si vous le désirez, fit-il d'une voix blanche, je reviendrai à un autre moment.
« Ah non, non, par exemple !» s'exclama M. Daven. « Monsieur Bobby, je vous tiens pour un parfait gentleman. Mais là, sincèrement, je suis un peu plus impatient de connaître le véritable motif de votre visite. Et si vous pouviez en deux mots calmer cette impatience. » À part lui, le policier commençait à se demander très sérieusement s'il n'allait pas jeter cet imbécile au bas de l'escalier. Quant à M. Bobby, il eut un léger haussement d'épaule. Les Français, toujours les mêmes, frivoles et légers. Alors, comme sous le déclenchement d'un ressort, il prononça des phrases brèves. « Vous ne savez pas quel est le bord de l'obélisque ?» L'avoir eut un sursaut. « Non, dit le chef de la sûreté. « Je le sais. Eh bien, parlez vite. Mes promenades m'ont mené à la morgue. Et j'ai vu. Et vous avez reconnu une insigne canaille qui s'appelle Coxwood, le pugiliste, le boxeur. Voilà. » Chapitre 3. Querelle de boutique. 2 heures après, on lisait dans le Nouvel Liste les détails suivants. Coxwood, John, était un boxeur de profession, non pas un de ces athlètes qui prétendent au titre de champion du monde, mais un rouleur de baraque foraine qui faisait le coup de poing pour quelques shillings, battait ou était battu, sans grand dommage, ni pour ses adversaires ni pour lui-même, peu coté chez les parieurs, mais assez truqueur en somme, pour gagner sa vie. D'ailleurs, ivrogne invétéré, irrespectueux du bien d'autrui, déjà initié aux douceurs de la prison et du treadmill. Bref, un personnage peu intéressant. M. Bobby, le célèbre détective anglais, supposait que le personnage avait eu l'idée de chercher fortune à Paris, où les combats de boxe, juste en ce moment, attiraient dans un de nos plus notoires musicals une foule aussi élégante que sauvage, qui discutaient comme des aficionados les combats de taureaux, les swings et les knock-outs des corpulents compétiteurs. Coxwood eut-il fait bonne figure dans ses fights de haut vol et... C'était peu probable, mais l'illusion est ardente, conseillère, à laquelle on résiste peu, sans parler de l'attraction que pouvait exercer Paris sur un pareil personnage. Quant à savoir à la suite de quels événements Coxwood, assommé, s'était trouvé au pied de l'obélisque, l'intérêt était en somme fort mince, et l'attention publique s'en fut rapidement désintéressée, si une circonstance toute particulière ne s'était produite et n'avait donné à l'affaire un regain de publicité. Nul n'ignore que si le Nouvelliste tient le haut du pavé, dans la carrière du journalisme d'information, il est serré de près par un concurrent, le Reporter, dont la vogue augmente tous les jours. Le Nouvelliste, dédaigneux de son rival, ne se fait pas faute d'affirmer sa supériorité, en des termes souvent peu bienveillants pour le Reporter, qui de son côté cherche par tout moyen à prendre son adversaire en défaut. C'est entre les deux journaux une guerre au couteau qui amuse la galerie, mais dans laquelle s'exaspèrent volontiers les deux lutteurs qui échangent des arguments dont quelquefois la courtoisie laisse à désirer. Or, il s'était trouvé que dans cette affaire de l'obélisque, le Nouvelliste était arrivé bon premier, tant pour le récit de l'aventure que pour la suite de l'enquête. Le Reporter, de son côté, suivait une piste parmi les sportsmen français, alors que directement informé par la préfecture, le Nouvelliste avait démoli tout son échafaudage de déduction en révélant la déposition de M. Bobby. Et il avait fait suivre cette publication de cette phrase aigre-douce. Nous regrettons vivement que la simple vérité réduise à néant les très ingénieuses hypothèses dans lesquelles s'étaient complus certains de nos confrères. Encore une fois, le Nouvelliste a prouvé la sûreté de ses informations, qui n'ont rien de commun avec les imaginations fantaisistes d'une presse assez peu scrupuleuse pour inventer de toutes pièces des renseignements fallacieux. s'était livré à la risée, le reporter, accusé de légèreté et presque de mensonge, et les autres journaux ne manquèrent pas de marquer le coup. Aussi, dans les bureaux du reporter, l'émotion fut-elle grande. Le directeur fulmina et mit deux de ses collaborateurs à la porte, tout en ripostant par une note d'un caractère patriotique. Le reporter reconnaît qu'il n'est rédigé que par des Français et qu'il ne puise pas ses informations auprès de collaborateurs étrangers. En tout cas, nous regrettons que l'événement souligne de façon aussi désobligeante la supériorité de la police anglaise sur la nôtre. Et d'ailleurs, nous n'acceptons pas, les yeux fermés, les affirmations que, selon nous, la préfecture a accueilli avec beaucoup trop de facilité. Et il ajoutait, ce Coxward, si Coxward il y a, n'était pas arrivé à Paris en ballon. Il a dû nécessairement se trouver en relation avec des gens de son monde et de sa spécialité. Cet homme a été assassiné par quelqu'un ou par quelques-uns. Le reporter institue l'enquête qui fera la lumière. Et qui sait, rira peut-être bien, peut-être qu'il rira le dernier. En somme, ce défi ressemblait singulièrement à du bluff. Mais le public s'en amusa, et comme justement dans ce moment, il n'était question ni de renversement de ministère, ni de tremblement de terre à l'étranger, cette lutte, peu courtoise d'ailleurs, captivait la curiosité générale. Or, il faut reconnaître que malgré la collaboration de l'anglais Bobby, l'affaire n'avançait pas d'un seul pas. Chaque jour, le nouvelliste, puisant sa documentation à bonne source, relatait la déposition des divers témoins que le juge d'instruction, M. Mallet du Saule, faisait défiler dans son cabinet et qui, malheureusement, se résumait toujours en cette formule concise mais peu satisfaisante. Le sieur Coxtoard nous est parfaitement inconnu. Le reporter se taisait, se contentant d'insinuations goguenardes dans lesquelles M. Bobby n'était guère ménagé. Un jour, le nouvelliste crut triompher. On avait découvert, dans les bas-fonds de Ménilmontant, une fille anglaise qui avait reconnu la photographie de Coxward. Seulement, elle déclarait l'avoir vue à Dieppe, il y avait 2 ans de cela, alors qu'en train de plaisir, il était venu passer 24 heures en France. La fille avait été arrêtée, cuisinée comme il convient, mais elle ne s'était pas contredite. Jamais depuis 2 ans, elle n'avait revu le dit Coxward, ni n'avait entendu parler de lui. D'autres dépositions contribuaient à compliquer l'énigme. Certains attribuaient le nom de Coxward à des personnages du monde sportif qu'on trouvait parfaitement vivants sous le nom qui leur appartenait, de Coxwell ou de Coxburn. Soudain, où il y avait 15 jours que cet imbroglio s'enchevêtrait de plus en plus, quand le reporter parut avec une manchette en caractères énormes, ainsi libellé, « Rira bien, qui rira le dernier ?» Et suivait l'article que voici. Nos lecteurs n'ont pas été sans remarquer la discrétion que nous avons apportée dans nos informations sur l'affaire Coxward. Ils savent d'ailleurs que nous avons l'habitude de ne parler que de ce que nous savons et de ne pas accepter les renseignements qui peuvent nous parvenir sans les passer au crible de la critique. Si parfois nous nous permettons de hasarder quelque hypothèse, c'est à ce titre que nous les présentons et seule la mauvaise foi peut nous faire un crime de ce qui n'est qu'un souci de la vérité. À bon entendeur, salut. Ceci dit, nous affirmons, et cette fois sans embâge ni réticence, que la déposition du sieur Bobby, le célèbre détective anglais, qui a si fort ému l'opinion, légèrement irritée d'ailleurs par l'immixtion d'un étranger dans nos affaires intérieures, que cette déposition, disons-nous, devant laquelle on s'est si fort hâté de s'incliner, comme si elle était et ne pouvait être que parole d'évangile, que cette déposition est erronée et inexacte de tout point. Ceux qui l'ont accepté avec tant d'empressement seront sans doute fort maris d'apprendre qu'ils ont été la victime d'une erreur ou d'une imposture. Le mort de l'obélisque n'est pas Coxward. Et comme garantie de notre affirmation, nous émettons un pari de 100 000 francs contre quiconque voudra le tenir. Nous déposons aujourd'hui même cette somme en espèces sonnantes, trébuchantes et ayant cours chez Maître Fallou, notaire. Le temps et l'espace nous manquent pour nous expliquer plus nettement. La confirmation de nos affirmations se trouvera établie tout au long dans notre édition de 5 heures. « Allez me chercher, Monsieur Bobby !» s'était écrié le chef de la sûreté à la lecture de cet impertinent factum. Le détective anglais arriva d'assez mauvaise humeur. Il était à Paris uniquement pour son plaisir, et justement on venait le déranger au moment où il allait partir en voiture Cook pour Versailles avec Madame Bobby. Sans prendre garde à sa physionomie quelque peu rébarbative, M. Daven lui tendit le journal. « Avez-vous lu cela ?»« Yes, sir. »« Et que dites-vous de cela ?»« Un pur humbug, » déclara Bobby. « Même à ce sujet, j'ai une question à vous adresser. Ces 4 000 livres sterling sont bonnes à prendre. Que dois-je faire pour m'en assurer le paiement ?» Il a écrit au journal, le reporter, une lettre très explicite. Mais à mon tour, un mot. Monsieur Bobby, prenez-y bien garde. Vous m'avez mis dans la situation la plus délicate. J'ai accepté votre déclaration comme émanant d'un homme de métier qui sait quelles sont ses responsabilités et aussi d'un gentleman incapable de se jouer de la confiance d'autrui. « Aujourd'hui, en présence de ces dénégations, êtes-vous sûr de vous ?»« Après tout, on peut être abusé par une ressemblance. Vous n'ignorez évidemment pas l'histoire de Le Surc et de son sosie du Bosque. Avez-vous la certitude absolue de ne vous être pas trompé ?» M. Bobby, qui d'ordinaire était de teint plutôt pâle, était soudain devenu cramoisi. Il avait dans ses mâchoires un frémissement de mauvais augure. « Monsieur, répondit-il d'une voix étranglée, je ne suis ni un enfant ni un fou. J'appartiens au service de Sa Majesté britannique, et c'est par pure condescendance. Je vous le rappelle que je consens à vous répondre, malgré l'atteinte profonde que vous venez de porter à ma dignité de citoyen anglais. » Je jure que l'homme assassiné est bien James Coxward, et je fais plus. Je tiens le pari de 4 000 livres. Et si vous les perdiez ? Oh, le reporter n'aurait pas osé porter ce défi s'il n'était en possession de documents sérieux. Monsieur, j'ai dit ce que j'ai dit. Ces journalistes sont d'infâmes menteurs. Et s'il le faut, je leur ferai rentrer leurs impostures dans la gorge. » Il salua, tourna sur ses talons et sortit. « Cet homme paraît de bonne foi, » pensait M. Daven. Les renseignements fournis sur lui par l'ambassade anglaise sont de tout premier ordre. Et pourtant, je dois me l'avouer à moi-même, je ne suis pas tranquille. En effet, il n'y avait pas à se dissimuler que cette erreur, si elle était prouvée, couvrirait de ridicule non seulement le détective anglais, ce qui n'avait aucune importance, mais la police française, ce qui était infiniment plus grave, surtout pour M. Daven, dont la position était assez menacée. Aussi, on comprend avec quelle impatience le chef de la sûreté attendait le numéro du reporter. Il avait bien cherché le moyen de se procurer d'avance des épreuves de l'article annoncé, mais l'imprimerie était bien gardée et toutes ses tentatives étaient restées infructueuses. Du reste, tout le Paris des curieux et des badauds était en éveil. La lutte entre les deux journaux rivaux intéressait, sans que d'ailleurs il y eût sympathie bien caractérisée pour l'un plutôt que pour l'autre. On aime à voir les gens échanger des horions sans se soucier de préjugés à qui restera la victoire. Aussi, à 5 heures moins le quart, il y avait foule sur le boulevard. Le temps était très doux et les terrasses des cafés étaient envahies. Les camelots vendaient un placard intitulé « La vérité sur l'affaire Coxward », que certains naïfs achetaient, croyant y trouver le mot de l'énigme. Or, ce n'était qu'une réclame pour un cirage nouveau. Enfin, les premiers porteurs du reporter sortirent de l'imprimerie de la rue du Croissant et, criant la feuille attendue, se ruèrent à travers la foule. On arrachait les feuilles encore humides des mains de ces gens qui avaient peine à en percevoir le prix. Il est vrai que, par compensation, certains les soldaient de seules pièces blanches dont ils ne trouvaient pas loisir de rendre la monnaie. La manchette était sensationnelle. Coxward est vivant. C'était court mais décisif. Puis plus bas, M. Bobby a perdu 100 000 francs. Et sous ses rubriques à grand tam-tam, on lisait ceci. Nous avons reçu de M. Bobby, l'illustre, l'impeccable détective anglais, une lettre dans laquelle il nous déclare accepter le pari de 100 000 francs que nous avons porté. C'est à notre grand regret, en raison de l'entente cordiale, que nous faisons signifier à M. Bobby une sommation d'avoir aversé aux pauvres de Paris, c'est-à-dire entre les mains de M. Mesureur, l'éminent directeur de l'assistance publique, la somme en question dont reçu lui sera délivré. Car deux faits seront établis plus loin. L'un d'abord, qui ne peut être contesté, c'est que le cadavre de la victime inconnue a été trouvé au pied de l'obélisque le 2 avril à 5 heures du matin. Et le second, dont les preuves sont indiscutables, c'est que le nommé Coxward, boxeur de profession, se trouvait le 1er avril entre minuit et 1 heure du matin, c'est-à-dire pendant la nuit du 1er au 2, dans une taverne à l'enseigne de Shadows Bar, bar de l'ombre, Liverpool Road, Islington. Islington est, on le sait, un des faubourgs de Londres. Si donc Coxward était à 1 heure du matin dans Liverpool Road, pour admettre qu'il pût être pendu dans cette même nuit à 5 heures à la grille de l'obélisque, il faudrait établir qu'on peut venir de Londres à Paris en 4 heures, sans parler du temps nécessaire pour se faire assassiner, et qu'il existe à 7 heures un train nord ou ouest opérant cette prouesse de rapidité vertigineuse, fait dont évidemment les compagnies de chemin de fer ne garderaient pas jalousement le secret. Comment établissons-nous que Coxward se trouvait à Londres dans la nuit du 1er au 2 avril? De la façon la plus simple et sans que nous ayons eu besoin de nous renseigner en haut lieu. Disons en passant qu'il est en vérité trop facile de se contenter d'informations toutes faites sans se donner la moindre peine pour en contrôler l'exactitude. Nous avouons être plus sceptiques et préférer autant que possible le libre examen à la fois. C'était non pas à Paris, mais à Londres que nous devions porter nos investigations et ainsi nous avons agi. Or, ce que nous pouvait nous apprendre un fil télégraphique, si direct fut-il avec la capitale de l'Angleterre, c'est que le 2 avril au matin, le nom de Coxward, le boxeur, figurait en un entrefilet de très petits caractères parmi les nouvelles sans importance dans un petit journal paraissant dans le quartier d'Islington et nous illume ceci. Cette nuit, un scandale a éclaté dans une de ces tavernes malfamées qui pullulent dans Liverpool Road. Un boxeur nommé Coxward, et dont les exploits ont déjà défrayé plusieurs fois la chronique judiciaire, avait été engagé pour un assaut de boxe à Shadows Bar, tenu par un certain Pat O'Kern, irlandais. L'assistance se composait de gens du bas peuple, et les paris s'établissaient avec des pence plutôt qu'avec des livres, ou même des shillings. La performance d'ailleurs ne valait pas davantage, et le combat provoquait plus de huées que d'applaudissements. Le nommé Coxward était d'ailleurs parfaitement ivre et pouvait à peine se tenir sur ses jambes, si bien qu'il avait été plusieurs fois knock-out sous les railleries du public. Et comme vers 1 h du matin, il devenait certain qu'il était incapable de tenir le coup, il déclara qu'il en avait assez et qu'il s'en allait, ce que tout le monde accepta par des applaudissements railleurs. Coxward, qui était hébété par la fatigue et par l'ivresse, entra dans la chambre voisine du parloir afin de reprendre ses vêtements. Un de ses adversaires, qui le connaissait pour sujet à caution, conçut tout à coup un soupçon et brusquement entra dans la pièce où Coxward se rhabillait et le surprit au moment où, ayant fini sa toilette, le misérable fouillait les poches des autres vêtements, s'emparait d'une montre en or et filait par la fenêtre du rez-de-chaussée. L'homme se jeta sur lui pour le retenir, mais Coxward se dégagea et se rua dehors. Au cri du volet, les clients du Shadows Bar s'élancèrent à sa poursuite et alors commença une véritable chasse à l'homme. Coxward avait une assez forte avance, de plus il connaissait admirablement le quartier, où de nombreuses lems se coupent et s'enchevêtrent. Il s'était lancé dans la direction de Highbury, et finalement il parvint à dépister ses poursuivants et disparut. Plainte a été portée contre Coxward, qui ne tardera pas à tomber encore une fois sous la main de la justice. C'était un fait divers banal, mais qui, dans la circonstance, prenait une importance singulière. Coxward, volant une montre à 1 h du matin à Shadows Bar, dans un quartier éloigné de Londres, jouissait-il donc du don d'ubiquité à un tel degré qu'il put en même temps se trouver à Paris, aux environs de la place de la Concorde? Il ne s'agissait plus que de vérifier, premièrement, si le fait mentionné dans le petit journal en question était réel, deuxièmement, si le jour et la date mentionnés étaient exacts, troisièmement, s'il n'existait aucun doute sur la personnalité du nommé Coxward. Notre collaborateur, la bergère, à qui nous avions confié cette enquête, se mit immédiatement en rapport avec un des plus notables solliciteurs de Londres, Edwin Butterworth, demandant à Temple Street, Lincoln's Inn Fields, qui procéda à une information régulière et recueillit les témoignages indispensables avec toutes les garanties de sincérité que confère la loi. Les témoins, ci-après, ont été entendus sous serment. Premièrement, Pat O'Kern, irlandais, tenancier de la taverne du Shadows Bar. Deuxièmement, Mrs. O'Kern, née au Kiffe. Troisièmement, Galbraith, pugiliste. Quatrièmement, Blockham, boucher. Plus 7 autres habitués de la taverne en question et appartenant à la classe ouvrière. Et tous ont déclaré que Coxward était sans aucun doute l'individu qui avait boxé à Shadows Bar, avait volé une montre et avait été poursuivi, que tous le connaissaient de longue date et qu'aucune méprise n'était possible, ni même supposable, que l'incident raconté par le journal était vrai dans tous ses détails, enfin que la scène s'était bien passée entre 11 h du soir 1er avril et 1 h du matin 2 avril. Ces documents, dont l'authenticité ne saurait être mise en doute, sont affichés dans notre salle des dépêches. Le public parisien peut ainsi juger du bien fondé des critiques discourtoises dont certains concurrents dépités avaient cru devoir nous accabler. Cette revanche de la vérité contre le bluff nous suffit. Seuls nous avions raison. Le cadavre de l'obélisque n'est pas celui de Coxward le boxeur. Décidément, notre ineffable chef de la sûreté, M. Daven, et son illustre collaborateur, le grotesque Bobby, n'ont rien de commun avec le légendaire Sherlock Holmes. Nous rappelons au célèbre M. Bobby que les caisses de l'assistance publique sont situées avenue Victoria, à deux pas de l'hôtel de ville. Ce fut par la ville un immense éclat de rire. On ne s'occupait certes plus du crime qui avait été réellement commis, ni de l'assassin, ni de sa victime. Du moment qu'elle ne s'appelait pas Coxward, il semblait que la mort n'offrit plus aucun intérêt. Mais quelque chose survivait. C'était le nom de Bobby, Bobby, l'illustrissime Bobby, l'admirable détective, et ce fut dans les journaux du lendemain matin une ruée de plaisanteries et de blagues féroces. Des caricatures le flagellaient sous des apparences plus ou moins folles. On vendait les cartes postales, Bobby, Bobby par-ci, Bobby par-là. Il était devenu le héros du jour, et devant l'hôtel où il demeurait, des groupes se concertaient, hurlant à pleine voix. « Cosplay Bobby ! Bobby à Charenton, Tontaine !» Ce qui mit le comble à cette excitation générale, c'est que Madame Bobby se fit conduire en voiture au bureau du reporter, passa en coup de vent devant les garçons de bureau, grimpa l'escalier, et ouvrant une porte au hasard, tomba dans la salle de rédaction. Et sans crier gare, cette femme sèche, grande et maigre, type antique de l'anglaise à longues dents, habillée comme un chien savant, se jeta sur le rédacteur, le parapluie en bataille, et distribua des Oreos à droite et à gauche, taillant et estocadant, et risquant fort d'éborgner des adversaires. Ce ne fut point petite affaire que de maîtriser cette furie qui prétendait venger l'honneur de son mari. On parvint enfin à s'emparer d'elle et à la remettre aux mains de Sergent de Ville, qui durent la ligoter pour la réduire à l'impuissance, non sans recevoir encore d'assez vigoureux Orion. On la porta au poste où les agents eurent encore à la défendre contre ses excentricités combatives. Sur l'ordre de la préfecture, elle passa par le dépôt, mais fut immédiatement conduite au bureau de M. Lépine. Fort heureusement, elle s'était un peu calmée, et daigna ne pas répondre par des injures à notre haut magistrat. Toujours frémissante, elle expliqua que M. Bobby, citoyen anglais, et que Mme Bobby, fille d'Écosse, ne tolérerait pas les outrages dont les journaux français les accablaient, que c'était infâme que d'accuser M. Bobby d'erreur ou de mensonge, qu'il ne s'était jamais trompé et que la tête sur le billot de Marie Stuart, elle jurait encore que la mort de l'obélisque était Coxward. « Mais vous, madame, vous connaissez ce Coxward ? Mais pour qui me prenez-vous ? Est-ce que je fréquente des gens de cette catégorie ? Alors comment savez-vous que c'est lui qui... » ?»« Mais monsieur Bobby l'a dit. »« très bien !» fit une voix claire, celle de monsieur Bobby qui venait d'être introduit. Cette réponse est conforme aux enseignements de la raison. La femme doit croire à toute parole de son mari. Ah, vous voici, monsieur Bobby, fit le préfet d'un accent assez sec. Vous êtes citoyen anglais, donc vous savez ce que signifient les mots. To keep the peace, garder la paix. Or, si je ne discute pas vos opinions, j'estime qu'il vous est interdit de faire du scandale pour les affirmer. Et avant de prendre à votre égard une décision qui me peinerait, je vous demande si vous et Madame Bobby Vous vous engagez à garder la paix, c'est-à-dire à ne point troubler l'ordre. Répondez-moi, je vous prie. » Monsieur Bobby se redressa avec une imposante dignité. « C'est-à-dire qu'à moi, citoyen de la libre Angleterre, vous voulez imposer cette opinion contraire à la vérité que Coxward n'est pas Coxward. Je n'entends rien vous imposer du tout, si ce n'est de vous tenir tranquille et de n'aller point assaillir les gens chez eux, ainsi qu'a eu tort de le faire la très honorable Madame Bobby. » Madame Bobby, agissant selon sa conscience, ne mérite aucun blâme. Donnez-nous au moins votre parole que vous ne recommencerez pas. Je m'y refuse. Et vous, Madame Bobby?
Je m'y refuse.
Alors, je me vois contraint d'user des droits que la loi me confère. Vous allez rentrer à votre hôtel, vous, Monsieur Bobby, et faire vos préparatifs de départ. Le train de Calais part à 8 heures. Vous trouverez Madame Bobby à la gare du Nord et, signification vous étant faite d'un arrêt d'expulsion, vous vous embarquerez un continent pour l'Angleterre.
C'est beau, fit noblement Monsieur Bobby. Cela n'empêchera pas que Coxward ne soit Coxward.
Et le soir même, Bobby et son irascible épouse quittaient Paris. L'affaire était-elle terminée et le dossier serait-il classé? On eût été bien surpris et surtout épouvanté si on avait pu prévoir les effroyables événements que devait entraîner à sa suite le crime de l'obélisque.